Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture qui s'intéresse aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, on explore les tensions entre la Chine et les États-Unis, deux pays qui se livrent à de nouvelles batailles technologiques. Au cœur du conflit, le réseau social TikTok, plus que jamais menacé d'interdiction sur le sol américain. Républicains et démocrates s'accordent sur un risque, une suspicion d'espionnage par Pékin des utilisateurs américains. Reste à savoir si cet argument sécuritaire n'est pas un prétexte pour affaiblir un acteur économique devenu trop puissant, un acteur qui brise l'hégémonie des GAFAM. La Chine, longtemps considérée comme une simple usine du monde, a grandement rattrapé son retard en 2 décennies pour réaliser un bond en avant spectaculaire. Nous tenterons de mieux comprendre les facteurs clés de cette percée et le rôle du régime chinois qui entretient néanmoins une relation ambiguë avec ses géants nationaux. Aujourd'hui, les regards se tournent vers le marché crucial des semi-conducteurs, essentiel au bon fonctionnement de notre monde connecté, des smartphones aux ordinateurs, en passant par les voitures. En quoi cette guerre des puces révèle-t-elle les enjeux de demain, un futur, où le continent africain et son marché tient une place déterminante? Beaucoup de questions et 3 invités en studio pour y répondre. Ophélie Coelho, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse indépendante et autrice de Géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas de géant, publié aux éditions de l'Atelier l'an dernier. Vous pourrez revenir sur la stratégie chinoise visant à développer ses propres solutions technologiques et vous pourrez analyser aussi la volonté d'expansion du pays à travers d'autres continents comme le déploiement d'infrastructures en Afrique. À vos côtés, Benjamin Birnbaumer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste et maître de conférences à Sciences Po Bordeaux, auteur de Chine, États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation, dont la publication à la découverte est imminente. Vous pourrez analyser la portée des actions mises en place par l'État américain pour bloquer cette nouvelle concurrence et témoigner des ambitions de la Chine pour rattraper son retard sur le secteur des semi-conducteurs. Enfin, Alain Wang, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sinologue, enseignant à l'École Centrale Paris et conférencier. Vous connaissez très bien l'écosystème technologique chinois, un écosystème fermé dont vous pourrez nous livrer les caractéristiques. Vous pourrez également nous expliquer le rôle d'entrepreneurs chinois partis aux États-Unis puis revenus pour développer leur propre structure. Au programme également, une chronique de Marie Turcan, rédactrice en chef chez Numérama. Marie reviendra sur la série chinoise qui vient de sortir sur Netflix, Le problème à 3 corps. Quant à Juliette Deveau, elle nous livrera 3 nouvelles d'un monde meilleur. Le meilleur des mondes, c'est à la radio ou en podcast sur l'application Radio France. N'hésitez pas à vous abonner et se regarder également sur la chaîne Twitch de France Culture. Allez, c'est parti.
Bonjour et bienvenue à
cette compétition sino-américaine pour le leadership mondial.
La guerre économique et la guerre peut-être plus court entre la Chine et les États-Unis.
Pour Pékin, prendre le leadership mondial passe d'abord par le développement de sa puissance technologique.
On vient d'inventer une nouvelle forme de guerre, la guerre technologique, terriblement plus propre, terriblement plus vicieuse aussi.
Aujourd'hui, impossible de vivre sans elles. Elles, ce sont les puces électroniques.
On en trouve dans l'intelligence artificielle qui va avoir besoin de semi-conducteurs de plus en plus performants dans les prochaines années.
Pour contrer Pékin, l'administration Trump n'a pas hésité à imposer des sanctions aux entreprises taïwanaises fournissant des puces à des clients chinois.
Et l'application chinoise TikTok vit-elle ces dernières heures dans les téléphones des jeunes Américains?
Les autorités chinoises et la direction de TikTok ont vivement réagi à l'adoption par la Chambre des représentants américaine d'un texte visant à interdire le réseau social.
Républicains et démocrates ont présenté un front uni.
Pour eux, les autorités chinoises utilisent TikTok à des fins d'espionnage et de manipulation.
This legislation, if signed into law, will lead to a ban of TikTok in the United States.
Et on ouvre cette émission sur l'affaire donc TikTok menacée d'interdiction après le vote de la Chambre des représentants. Démocrates et républicains se sont donc retrouvés pour limiter la puissance de cette plateforme qui est donc suspectée d'espionnage. Benjamin Birnbaumer, quelle est finalement la portée politique de ce vote ?
Alors, on pourrait se dire que dans un premier temps, il y a évidemment un enjeu préélectoral qu'on peut percevoir. Mais derrière tout ça, priver TikTok de 100 millions de clients, puisque c'est ça qui se passe aux États-Unis, eh bien, c'est évidemment faire un immense cadeau à l'empire des réseaux sociaux de Mark Zuckerberg. Donc, il y a cet aspect concurrentiel. Mais derrière tout ça, eh bien, il y a un enjeu autrement plus considérable, puisqu'il se trouve que La maison mère de TikTok, c'est ByteDance, qui est un des mastodontes de l'intelligence artificielle, qui a besoin d'être nourri constamment en données. Et c'est précisément ce que cette application permet de faire. Donc en réalité, derrière un enjeu de part de marché sur un segment des technologies du divertissement, eh bien, la question de l'interdiction de TikTok nous conduit directement vers les enjeux de la suprématie numérique entre la Chine et les États-Unis.
Voilà, on sait à quel point les données sont importantes pour faire fonctionner justement cette intelligence artificielle. On sait que la Chine n'est pas en avance sur ce terrain-là, du moins elle est largement concurrencée. Donc on voit l'intérêt, on voit l'importance de ce réseau social. Néanmoins, l'argument qui est affiché par les parlementaires est celui de la cybersécurité. Alain Wang, que savons-nous vraiment des menaces d'espionnage par Pékin autour de TikTok ? On en parle depuis plusieurs mois maintenant, voire années, mais qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'on a comme élément tangible ?
Alors moi, je voudrais comment revenir sur un point.
Dites-nous.
C'est qu'on est face à un régime chinois qui est quand même un régime autoritaire, qui prône quand même une volonté de surveillance de masse, de contrôle des populations, etc. Donc on n'est pas du tout dans un, même si les États-Unis, on verra avec les prochaines élections, on verra si c'est Trump ou Biden qui reste au pouvoir, on est quand même dans une démocratie aux États-Unis. Donc ça, c'est quand même la grande différence. C'est-à-dire que, évidemment, on est aussi dans un combat idéologique entre de l'autocratie de la dictature et de l'autre côté, un pays démocratique libéral.
C'est ce que vous voulez dire par là, c'est que derrière cette tentative de limiter TikTok se joue aussi pour vous un combat idéologique démocratie versus régime autoritaire.
Évidemment, et la Chine porte ça maintenant. Elle est le porte-flambeau quand même d'un système. D'ailleurs, l'Union européenne, en 2017, a mis véritablement la Chine comme un rival systémique qui prône un modèle de gouvernance différent du nôtre. Donc, il faut jamais perdre de ça à l'esprit. C'est-à-dire que derrière, il y a quand même ça. Donc, de l'autre côté, que les Chinois récupèrent de la data, je dirais, de l'autre côté aussi, d'une façon classique, Microsoft, enfin Meta, les autres, etc., font aussi la même chose. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Donc, c'est pas sur ce point-là que je les critique.
Voilà, les deux récupèrent les données. Voilà. C'est-à-dire que, effectivement, les GAFAM récupèrent les données. Les Chinois récupèrent les données, sauf que ça nous dérange un peu plus lorsque c'est une dictature ou un régime autoritaire qui les exploite.
Ouais.
Mais par rapport, justement, à l'espionnage via TikTok, parce qu'on sait que beaucoup d'éléments sont annoncés. D'ailleurs, sans parfois amener totalement des preuves. Ça a du moins été la défense du patron de TikTok lorsqu'en 2023, il a été interrogé par des parlementaires américains. On l'écoute.
Êtes-vous une entreprise chinoise ?
TikTok appartient-elle au Parti communiste chinois, comme tout le monde le pense, ou vivez-vous encore dans une dimension parallèle ?
Je pense qu'un grand nombre de risques signalés sont hypothétiques. Je suis impatient de participer à des discussions où nous pourrons parler de preuves.
Et c'est précisément ce que répond Pékin à ces accusations d'espionnage.
Ces dernières années, bien que les États-Unis n'aient jamais trouvé aucune preuve de la prétendue menace de TikTok pour la sécurité nationale, ils n'ont toujours pas cessé la répression sur TikTok. Ce type de comportement consiste à recourir à l'intimidation pour ne pas gagner dans le cadre d'une concurrence loyale.
Alain Wang, donc pour clore ce chapitre, il y a quand même une différence entre l'exploitation des données et l'espionnage. Donc, que savons-nous de la menace réelle d'espionnage de Pékin via TikTok ?
La question, c'est de l'appartenance de TikTok. À qui appartient-il ? Quand on regarde sur le site internet de ByteDance, ByteDance vous dit qu'il y a 1% qui appartient à l'État chinois. Et l'État chinois, depuis maintenant 2015, pratique pratiquement toutes les gens de la tech, qu'on aille chez Alibaba, chez Tencent, etc., est en train de reprendre la main sous couvert de prise de participation sur l'ensemble de ces sociétés. Xi Jinping, il est très clair, c'est lui qui décide, c'est lui qui organise. Et d'ailleurs, à la dernière Assemblée nationale populaire où il a été nommé pour une troisième fois, c'est-à-dire peut-être pour très longtemps, il a créé une commission des sciences et technologies à laquelle il est en tête et c'est lui qui gère tout ce qui est en dessous. Donc, il faut bien se rendre compte aussi que là aussi, le phénomène de dictature, on va dire, sur le numérique, elle est présente.
Voilà, et pour compléter, on sait que TikTok a amené quelques gages, notamment de passer, de laisser, de confier à Oracle l'exploitation des données des utilisateurs américains aux États-Unis, mais ça a été aussi contesté par certains en disant que finalement ces données arriveraient toujours via Pékin. Donc on peut rester effectivement sur cette dernière information et cette suspicion. Ophélie Coelho, si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce qu'elle nous dit cette affaire TikTok ? Vous évoquez que c'est un peu l'arroseur arrosé.
Oui, tout à fait. fait. Des deux côtés, hein, on sait bien que les technologies, par exemple américaines, et notamment de réseaux sociaux, permettent depuis assez longtemps hein, de faire du recueil d'informations. Donc, je dirais que quelque part, oui, c'est l'arroseur arrosé. Ils viennent accuser en quelque sorte une entreprise chinoise de faire ce que eux font depuis très longtemps. Et de l'autre côté, pour les Chinois, c'est pareil. C'est que depuis un certain nombre d'années, en Chine, il y a des restrictions pour les entreprises étrangères qui souhaitent faire du business hein, en Chine, avec justement bah, des limitations, des contraintes de modération, etc. Donc c'est pareil en fait. Hein. Très souvent pour une entreprise étrangère qui voulait faire du business en Chine, il fallait soit créer des joint ventures avec des entreprises chinoises, avec le risque d'un transfert de technologie, soit il fallait laisser aussi tout à fait la possibilité au gouvernement chinois, enfin à l'État, au parti État chinois, de récupérer, d'avoir la main sur les serveurs, sur les centres de données. Donc, si vous voulez, finalement, c'est vraiment l'arroseur arrosé des deux côtés, que ce soit du côté américain ou du côté chinois, ils se reprochent ce qu'ils font chacun sur leur propre territoire.
Oui, parce qu'on voit effectivement que les États-Unis commencent à adopter des mesures assez protectionnistes, de limitations, de restrictions, ce qui est, comme vous le dites, une pratique courante en Chine. Benjamin Birnbaumer, vous avez évoqué tout à l'heure Donald Trump. On a vu qu'il a eu un revirement, Donald Trump, puisque ça a été le premier, finalement, en 2016, à adopter une politique assez offensive contre TikTok, contre la Chine. Il voulait déjà lui-même l'interdire. Quand on l'interroge sur cette question-là aujourd'hui, il est beaucoup moins offensif à l'égard de la Chine et de TikTok. Il dit même que ça serait une mauvaise idée de l'interdire, car ça renforcerait un peu plus ces nouveaux ennemis qui semblent être Meta et le réseau de Mark Zuckerberg.
Alors, peut-être qu'il ne faut pas accorder trop d'importance aux déclarations ponctuelles de Donald Trump. En tout cas, ce qui me paraît plus sûr comme manière d'approcher la question, c'est de regarder la tendance des 20-30 dernières années. Et là, ce qui s'affirme très très clairement, c'est que la Chine parcourt un rattrapage technologique extrêmement rapide. Et donc, dans ce contexte-là, depuis un certain nombre d'années, Washington essaye de maintenir à distance la Chine par rapport à la frontière technologique, que ce soit par des sanctions ou des subventions allouées aux sociétés américaines ou alliées. Et si Washington est tellement préoccupé par la question de technologie, c'est parce que la Chine représente effectivement là un réel défi. Alors, il y a pas longtemps, un institut australien a placé la Chine à la première place des 37 des 44 technologies de pointe. Mmh. Alors, c'est sans doute un peu exagéré. N'empêche, le fait est là et ce fait fragilise la capitalisation boursière des sociétés américaines, fragilise la suprématie du dollar et inquiète même l'armée américaine. Donc, la mondialisation dont la Chine est la progéniture risque en quelque sorte de se retourner contre les États-Unis.
Voilà, c'est un des propos qu'on peut lire dans votre ouvrage Chine-États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation. Juste dans ce projet de loi hein, qui doit maintenant passer au Sénat, qui va être encore avec de nombreuses contraintes hein, tout de même à dépasser pour pouvoir être appliqué, il est dit que Biden va devoir donc se séparer de TikTok dans un certain nombre de jours pour pouvoir le laisser à une autre entreprise américaine qui pourrait donc l'acheter. Mais qu'en est-il, Alain Wang, de la possibilité de voir vraiment un entrepreneur américain acheter TikTok lorsqu'on connaît en ce moment l'ambiance un peu antitrust qui règne aux États-Unis ? Est-ce qu'on va, ce serait compliqué de laisser un GAFAM racheter TikTok ?
Alors, il faut prendre un contre-exemple. Actuellement, il y a Apple, donc le constructeur de mobile, qui est en train de passer un accord avec Baidu pour introduire à l'intérieur de ses téléphones un système d'intelligence artificielle. Donc, ça veut dire qu'ils collaborent quand même ensemble quand il y a des questions véritablement de marché. Mmh. Donc, de l'autre côté, on peut se dire que c'est pas tout TikTok qui va être acheté. Évidemment, c'est la partie américaine de TikTok. Et dans certains pays, on peut déjà le voir, en Inde, TikTok est interdit. Au Pakistan, TikTok est interdit. Dans pas mal de pays, enfin, dans une dizaine de pays du monde, TikTok est absent ou il est très très réduit, ce qui est le cas aujourd'hui en Europe. Hein. Les fonctionnaires européens, comme les fonctionnaires américains, n'ont pas le droit d'avoir d'application chinoise et en particulier TikTok sur leur téléphone. Donc déjà, il y a déjà une démarche qui est en cours. Je veux dire, c'est pas une démarche nouvelle. Donc, à mon avis, la solution qu'a Biden, c'est de se séparer de sa partie américaine. Est-ce qu'ils iront jusque-là ? J'en sais rien. Mmh. Ça, c'est la grande question.
Sachant qu'il y a un petit paradoxe aussi avec Biden, puisque vous l'évoquez, c'est-à-dire que par rapport à cette loi, il a dit qu'il pourrait y souscrire. Comme vous le rappelez, TikTok est interdit chez certains fonctionnaires, enfin, de l'État américain, et il vient pour autant d'ouvrir son compte Twitter en février pour mener campagne.
Et Twitter est américain.
Pardon, il vient de TikTok.
TikTok. Ah, c'est possible. Oui, oui. Bah, pour l'instant, de toute façon, c'est vrai que TikTok reste un outil.
Donc,
un outil de propagande, quelque part.
Voilà, de communication et de propagation.
Bah, il a 150 millions de jeunes américains qui sont dessus, hein. C'est beaucoup.
C'est beaucoup.
C'est pratiquement la même chose que pour Instagram, en fait.
Oui.
Ophélie Coelho, j'ai évoqué le Sénat. C'est quoi la probabilité que cette loi finalement soit votée? Lorsqu'on peut lire quelques commentaires, ça paraît quand même assez incertain malgré tout.
On peut pas vraiment prédire la décision du Sénat. Hein, je ne me risquerai pas à ça. C'est plutôt en revanche sur le choix qui sera fait par Biden. Je ne crois pas vraiment en l'acceptation de cette consigne de vente même s'il s'agit de la filiale américaine. Pourquoi? Parce que au fond il s'agirait d'un transfert de technologie quand même assez important. Je pense que ce serait vraiment un aveu de faiblesse de la part de l'entreprise chinoise et donc de la Chine plus globalement. Je pense pas qu'ils soient prêts à faire ce deuil là. D'après justement les efforts qu'ils ont menés ces dernières années, ça me paraît assez incertain. En revanche, moi ce que j'observe là-dedans plutôt, c'est le fait que ça pourrait donner finalement, un peu comme tous les embargos qui ont été menés contre les entreprises chinoises et contre la Chine en général, ça pourrait au contraire être pour eux un levier pour développer leur propre magasin d'applications, parce qu'on parle pas d'une interdiction individuelle de l'utilisation.
Oui, pour bien comprendre, c'est une interdiction donc dans les magasins américains qui sont Apple Store, entre autres, et puis d'Android qui n'auraient plus la possibilité de permettre le téléchargement de TikTok. Et donc vous me dites que tout cela, cette interdiction pourrait profiter finalement aux Chinois.
Oui, ça pourrait finalement profiter aux Chinois. Pourquoi? Parce que si on regarde un petit peu les évolutions sur notamment les téléphones chinois, ils ont finalement leur propre OS de plus en plus. Ils ont Harmony OS par exemple. Ils ont la version OS aussi, je crois que c'est Magic OS pour Honor. Et en fait, dans ce cadre-là, ils ont développé leur propre magasin d'applications. Aujourd'hui, ils ne sont pas généralisés, ils sont restreints au téléphone chinois. Mais finalement, est-ce que l'interdiction sur les stores américains ne va pas pousser les entreprises chinoises, comme ils l'ont fait dans d'autres secteurs, que ce soit des routeurs à l'époque, au moment où ils ont construit leur réseau terrestre Internet, ou après, même pour les machines lithographiques sur semi-conducteurs, est-ce qu'ils vont pas en profiter finalement pour développer leur propre technologie, pour en tout cas l'améliorer. Moi je pense que ça peut aussi se retourner finalement contre les Américains, cette décision-là, de manière assez paradoxale.
Voilà, donc en tout cas c'est une idée intéressante. On verra bien ce qui va se passer avec le Sénat, qui a annoncé d'ailleurs que ce vote sera en public, ce qui prouve justement l'intérêt de l'opinion sur ce sujet-là. Pour l'instant, aucune date n'a été fixée, donc on a le temps justement de voir venir. Ça c'est le futur, mais je crois que c'est intéressant dans cette émission de revenir un peu dans le passé aussi, pour voir comment la Chine, à partir du début des années 2000, Benjamin Birnbaumer a réussi à déployer ses propres technologies.
C'est effectivement une question extrêmement importante, puisque il est assez surprenant de constater qu'il y a juste la Chine qui est en mesure, seulement la Chine qui est en mesure de concurrencer les États-Unis. Et quand on fait de l'histoire économique, on raisonne généralement en termes de paradigme techno-économique. Donc on était pendant une bonne partie du XXe siècle sur le paradigme de l'automobile et du pétrole. Et là, on est au moment de basculer vers un autre paradigme qui est celui des technologies de l'information et de la communication. Et un tel moment charnière est donc extrêmement rare, mais offre aussi des opportunités assez extraordinaires. Puisque il faut bien comprendre que le développement technologique est un processus cumulatif. Ceux qui sont retardaires passent leur temps à courir derrière les précurseurs et vont jamais vraiment les rattraper. Et quand on passe d'un paradigme à un autre, on remet les comptes à zéro. Tout d'un coup, les savoirs, les équipements de l'ancien paradigme ne valent plus grand-chose et la Chine arrive dans ce moment-là.
Alors, oui, c'est ce qu'on comprend effectivement de lorsqu'on n'est pas très puissant sur une première avancée aux révolutions numériques, on essaye de prendre la prochaine en marche tout de suite dès le début pour rattraper son retard et puis effacer justement un potentiel retard par rapport aux concurrents directs. Donc on voit que c'est exactement ce que la Chine a fait à peu près au début des années 2000.
Exactement, et ce qui est intéressant d'un point de vue à la fois économique et politique, c'est de se demander mais pourquoi la Chine y arrive et d'autres pays n'y arrivent pas du tout. Et là, il faut s'interroger un peu sur les spécificités de l'économie chinoise. Et là, on a Eh bien, la mondialisation qui joue un rôle. Parce que la Chine, pendant 3-4 décennies, elle a joué le rôle d'une plateforme d'assemblage des produits électroniques.
Mmh. L'usine donc, du monde, hein.
Oui. Exactement. Et on donc, elle a vu ça. Passer les produits les plus sophistiqués. Donc, c'est autant d'occasions de faire de l'ingénierie inversée, des possibilités d'apprentissage. Ça, c'est un des éléments, par exemple.
Alain Wang, justement, l'ingénierie inversée, c'est quoi? Comment on peut la définir?
Alors là,
ingénierie inversée, quand même, Alain,
ingénierie,
on regarde un produit fini, on
décompose,
on espionne.
Regarde, on espionne.
Alors surtout aussi, il y a eu un facteur très très important, c'est les centaines de milliers d'étudiants chinois qui sont allés travailler, enfin qui sont allés d'abord dans les universités américaines, ensuite dans les grandes entreprises américaines et qui rentrant en Chine se sont retrouvés dans un écosystème où justement tout à l'heure vous le disiez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace pour d'autres compétiteurs. C'est-à-dire, il n'y aura pas Facebook, il n'y aura pas Amazon est tout petit, je veux dire, etc. Donc, on est véritablement dans un écosystème très particulier qui a permis à tous ces grands, alors on a les GAFAM d'un côté, les BATX du côté chinois, de grandir et de prendre de l'ampleur. Et aussi, évidemment, un apport très fort de l'État chinois, puisque en Chine aussi, on a dans l'avancée une perception systémique, c'est-à-dire que la Chine se veut comme première puissance technologique du monde en matériel, en vente de matériel dans le monde. Elle utilise aussi tout ce qu'elle fait aujourd'hui dans le cadre de la mise en place d'un système de surveillance de masse. C'est très important aussi pour le pouvoir, pour se maintenir au pouvoir. Et donc tout
pour
ça.
Conserver la fameuse stabilité sociale.
Et d'être aussi une puissance militaire mondiale. Donc on est à plusieurs niveaux qui enrichit justement cette volonté de la Chine d'aller de l'avant dans les technologies.
Alors on comprend bien qu'ils ont réussi à faire de leur retard finalement un atout. D'ailleurs, Ophélie Coelho, vous parlez de géopolitique du traumatisme.
Oui, alors c'est pas de moi hein, cette formulation-là. Notamment, il y a Olivier Zaget qui travaille sur ces sujets-là, voilà, de géopolitique du traumatisme. C'est l'idée qu'en fait, quand on a été à un moment donné, quand on a vécu des traumatismes dans son histoire et notamment dans son histoire géopolitique, on va vouloir finalement renverser les choses et tout notre positionnement géopolitique va être empreint de cette histoire-là et de cette blessure géopolitique. Bah là, pour la Chine, il y a un petit peu de ça, parce que, en effet, avec la mondialisation et cette appellation d'usine du monde est très représentative, et une forme de mépris du côté occidental aussi de la capacité de la Chine et des entreprises chinoises à faire de l'innovation, parce qu'on a toujours dit ils copient, mais ils arriveront jamais à. Même encore maintenant sur les semi-conducteurs, combien de fois on entend que mais non, ils arriveront jamais à 7 nanomètres, à 5 nanomètres. Voilà, on n'y croit pas, comme si c'était impossible que la Chine y arrive. Bon, faut arrêter avec tout ça, mais je pense en tout cas que cette histoire-là du traumatisme, en gros, dirige, en effet, oriente hein, notamment l'industrie, la politique industrielle chinoise aujourd'hui. Il faut aussi le savoir pour bien comprendre, pour bien l'analyser.
Benjamin ?
Oui, alors effectivement, la manière dont la Chine s'est insérée dans la mondialisation est extrêmement importante. Et il est intéressant aussi de constater que la Chine, eh bien, pendant un certain temps, dans les années 80-90, avait l'espoir que en accueillant des multinationales étrangères, eh bien ces multinationales partageraient leurs technologies. Et en réalité, ça s'est pas vraiment produit comme ça. Et donc en 2006, la Chine décide de changer de stratégie, de développer des technologies indigènes. Voilà, c'est ça l'expression qui a été utilisée. Donc à partir de là, eh bien l'État chinois accompagne très très proactivement avec beaucoup d'argent public, avec des politiques industrielles et il faut jamais l'oublier. Évidemment, la pression très forte sur les salaires des Chinois, eh bien, ça libère du capital pour l'innovation. Donc ça aussi, c'est une des raisons de la forte capacité innovatrice de la Chine aujourd'hui.
Voilà, ça fait partie des facteurs comme celui, Alain Wang le disait, d'envoyer des étudiants à l'étranger, d'envoyer aussi des entrepreneurs à l'étranger pour qu'ils puissent un peu mieux comprendre l'écosystème et ensuite d'y revenir, développer leurs propres entreprises, parfois même en faire des géants. Là, on pense évidemment à Alibaba et son directeur Jack Ma. Un Jack Ma qui, un jour, subitement, a disparu.
La dernière fois que Jack Ma est apparu en public, c'était le 24 octobre dernier lors d'une conférence à Shanghai. Ce jour-là, l'homme qui était encore il y a peu le plus riche de Chine prononce un discours critique à l'égard du régime. Depuis, le célèbre milliardaire fondateur de la plateforme de commerce en ligne Alibaba est porté disparu. Et les attaques gouvernementales à l'égard de son entreprise se multiplient. La première concerne la mise en bourse de la filiale financière d'Alibaba, qui devait générer la plus grosse levée de capitaux de l'histoire. À la surprise générale, elle est retoquée par le gouvernement.
Alors je rassure hein, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas suivi l'actualité de près, Jack Ma, entre-temps, est réapparu, hein, il est revenu aux affaires, mais il a disparu longtemps. De quoi justement Jack Ma est-il le symbole, Alain Wang ?
Alors Jack Ma, il est le symbole, on va dire, de deux choses. Un, de l'économie privée, qui a été véritablement le moteur de la montée de la Chine. Il ne faut jamais oublier que c'est les petites entreprises, justement, peut-être qui fabriquaient des pantalons, etc., qui ont fait du capital et qui ont permis ensuite de grandir. Il est aussi le symbole de tout ce milieu de la tech, justement, qui a germé en Chine, protégé, et qui était devenu tellement puissant. Je pense que quand Xi Jinping arrive au pouvoir en 2015, il se retrouve face à des gens qui ont 40 ans et qui ont assez ras-le-bol, je dirais, du système qui est en place et qui ont envie d'aller beaucoup plus loin. Et Jack Ma va véritablement être un de ceux qui vont critiquer le régime, évidemment. La sanction est immédiate et il va être, on va dire, mis en réserve parce qu'il n'a pas été vraiment en prison. Il va être envoyé au Japon, puis après il va revenir. Puis là, il revient en ce moment, il semblerait qu'il ouvre des restaurants. Donc, mais c'est intéressant qu'il fasse ça d'ailleurs, parce qu'en même temps, c'est une critique assez formelle du régime, en disant, ben, j'ouvre des restaurants parce que vous m'interdisez de faire de la tech. Vous m'interdisez véritablement de faire autre chose. Donc, il y a tout un jeu, on dirait, avec toute cette jeunesse hein, aujourd'hui qui est là, qui se dit est-ce qu'on reste en Chine, est-ce qu'on part ? Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le piège de la Chine en ce moment dans son dynamisme, c'est qu'il y a énormément de jeunes chercheurs, de patrons, etc., de jeunes patrons qui quittent la Chine et qui vont s'installer en Australie, aux États-Unis et ailleurs. Et donc ça va être un problème pour la Chine dans les années qui viennent.
Mais là, c'est intéressant parce qu'on voit toute l'ambivalence, c'est-à-dire que la Chine va mettre en place un cadre sécurisé, on va dire bienveillant à l'égard des affaires pour permettre justement à celle-ci de prospérer, ce qui fait que vont naître des géants, mais il ne faut pas qu'ils soient trop puissants.
Il ne faut pas qu'ils critiquent le parti.
Il ne faut pas qu'ils critiquent.
Il ne faut pas qu'ils deviennent une force d'opposition qui pourrait renverser le parti. Ça, c'est essentiel pour Xi Jinping, puisqu'il veut que le parti soit au pouvoir en 2049 pour fêter ses 100 ans. Donc, de toute façon, c'est sa ligne principale, hein. Le reste, après, bon...
Sur cet aspect, justement, Ophélie Coelho, on voit que même Xi Jinping parlait de la sécurité des données pour mieux essayer de limiter l'émergence d'entreprises qui seraient un petit peu trop gênantes.
Oui, en effet, il y a pas seulement le côté coercitif qui est utilisé. Alors, il y a Ant Group de Alibaba, c'est la maison mère d'Alibaba. Il y a également Didi, et une autre entreprise chinoise, Meituan. Enfin, il y a un ensemble d'entreprises qui, à un moment donné, paraissaient trop grosses et qui ont, du coup, été soumises à des sanctions, que ce soit des amendes, un certain nombre de choses, ou aussi des enquêtes pour anti-monopolistiques, donc antitrust, l'antitrust chinois. Mmh. Et en effet, en termes de liberté, enfin de liberté de données personnelles, il y a aussi eu des restrictions sur le recueil des données personnelles, non pas pour protéger vraiment les données personnelles des Chinois, mais plutôt pour éviter quelque part qu'il y ait une accumulation de données de la population chez certaines entreprises uniquement. En fait, l'État chinois se voit plutôt comme lui, utilisateur des données personnelles pour justement faire de la gestion de masse, parce que c'est son objectif, la gestion de données de masse, la gestion de population, de manière générale, et voit d'un assez mauvais œil que des entreprises privées puissent en fait avoir cette tâche-là de récupérer, de recueillir les données, parce que ça donnerait la possibilité quelque part d'être comme les entreprises américaines, c'est-à-dire à partir des données, être en capacité de développer des technologies puissantes derrière, qui viendraient quelque part prendre un peu de la souveraineté de l'État, de ce point de vue-là. Donc, il y a vraiment une stratégie de la part de l'État, du parti État chinois à faire tout en sorte, en fait, pour limiter le pouvoir de monopole potentiellement dangereux pour sa souveraineté.
Voilà, quitte à s'affaiblir peut-être un petit peu à l'échelle géopolitique contre les États-Unis.
Absolument.
Les États-Unis et l'Amérique qui a donc un problème, et en anglais cela donne « America has a problem ». Et oui, c'est une chanson de Beyoncé accompagnée par Kendrick Lamar dans « Le meilleur des mondes ».
America has a problem.
France Culture. Le meilleur des mondes. François Saltiel.
Turbine watcher, Fuji lane collar, 911 slider. Look at my garages. Synced up, get the genie at the bottle and point at any model. What?
Ghosting, fuck it up. Ghosting, fuck it up. Ghosting, that's what's up. Ghosting. Hey, Bobo, too much complexity to learn me from Google. My mama told me that the money outgrew you. My horoscope said I'm really on my noodle. I'm troubling, I'm puzzling, it's a dooku. Say BS, America got a problem. Kicked up, choosy lover that chose violence. Universal, please don't play possum. I'm a businessman, doing as follows.
Truthfully, I be lying in my rap song. Cause I always felt a mission, I slap homie. His career didn't come with no life insurance. Hope his day one fans got some facts on him. I'm an honorary beehive, let's see why. Them diamonds don't be fly, they all CGI. You better get it off your chest like breath reduction. If she stress over you, she stressed for nothing.
Hold up, wait a minute.
Even AI gotta practice cloning Kendrick. The double entendre, the encore remnants.
I bop like 10 men, the ops need 10 men.
Feel
boy, they know. At the hole, rightfully so. Simmer down, I go.
How you got that deep for me? Real love is deep for me. I'ma make you go weak for me. Make you wait a whole week for me. I see you watching, feeling. I know you want it, seeming. I know you need it, drug lord. You want it on you, don't I know? Give me love, I need some too. Do you want this like it wants you? Know that booty gon' do what it want to. Can't hit it one time, multiple. I know you see this red, red, red on me. Now come and get high, high. 20, 40, 80 out the trap. Hit it with the rap, put it on the map. Then we right back. Racks, I be P on my bag, double G's on my dash. Nigga, I'm bad. I'm bad.
When you wanna get, boy, you can't get no higher than this.
No,
no.
Cause love don't get no higher than this.
No,
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 no.
Grind, boy, you know I grind. When I pull up the change, you're mine. You're mine. When I step on the scene, they can't wait to back it up. Your ex still a dope, but it ain't crack enough. I'm supplying my man, I'm in demand. Soon as I land, just know I roll with them goons. In case you start acting familiar, this kind of love, big business, whole slab.
But
I
you
feel
can't
for.
Get no higher than this.
No,
cause love don't get no higher.
Et oui, America has a problem par Beyoncé et Kendrick Lamar. L'Amérique a un problème, peut-être que ce problème s'appelle la Chine. C'est du moins l'objet de notre discussion que nous allons poursuivre après le journal de Juliette qui vient d'arriver dans ce studio. Bonsoir Juliette.
Bonsoir François.
Les nouvelles d'un monde meilleur. Juliette Deveau.
Et on ouvre ce journal avec des nouvelles de l'entreprise Apple qui vient de vivre une semaine particulièrement difficile. Après l'ouverture d'une enquête antitrust par le département américain de la justice, la firme à la pomme apprenait qu'elle était également visée par une enquête de la Commission européenne pour pratiques anticoncurrentielles. Deux procédures qui devraient s'étendre sur plusieurs années, mais qui visent à mettre en lumière les comportements de l'entreprise visant à restreindre l'accès des autres acteurs du numérique au marché depuis des années. Concrètement, la Commission européenne vise notamment Apple pour ses restrictions d'accès liées à son App Store, tandis que le juge américain souligne ses actions menées pour éviter la portabilité des données sur ses applications de messagerie ou pour rendre les iPhones compatibles uniquement avec des produits connectés d'Apple. Des procédures qui ne sont pas sans rappeler le procès historique qui visait Microsoft dans les années 90 et qui s'était soldé par des sanctions minimes plutôt qu'un réel démantèlement. L'issue de ces deux enquêtes en dira long sur notre entrée ou non dans une nouvelle ère moins monopolistique du numérique.
Et on poursuit ce journal, Juliette, en se penchant sur la relation tumultueuse entre les enfants et les écrans.
Oui, alors que cette relation inquiète toujours plus, générant des velléités d'interdiction ou même de rationnement d'Internet, on apprenait cette semaine que l'Éducation nationale travaille actuellement autour d'une approche nouvelle, éduquer les parents au numérique pour leur permettre d'accompagner au mieux leurs enfants. C'est le journal Le Monde qui attire notre attention sur ces initiatives. La rue de Grenelle serait en train de concevoir un guide des bons usages à l'intention des parents, tandis que plusieurs académies expérimentent en ce moment la tenue d'ateliers et de rencontres dans les établissements scolaires pour sensibiliser les parents aux réelles menaces sur Internet et à la meilleure manière d'accompagner leurs enfants dans leur exploration. Alors que la commission écran, constituée par le gouvernement, doit rendre ses conclusions d'ici quelques semaines, on ne peut qu'espérer que cette approche soit le signe d'une inflexion du discours alarmiste qui semblait prévaloir jusqu'alors dans nos ministères.
Peut-on faire la paix avec les écrans ? Je me permets de renvoyer justement notre précédente émission qui explorait ce sujet. ferai une émission comme tous les meilleurs des mondes, comme tous vos journaux aussi, Juliette, qu'on va terminer, celui-là du moins, avec un anniversaire.
Et oui, un anniversaire, et pas le vôtre, François, que l'on célébrait hier avec Fast dans l'Agora, mais celui de l'application...
Vous révélez tout.
Celui de l'application Grindr, qui fête ses 15 ans cette année. Le journal The Guardian consacre ainsi un long article à cette application de rencontre pionnière lancée en 2009, dédiée spécifiquement aux hommes homosexuels et bisexuels. L'article de The Guardian souligne ainsi le rôle déterminant de l'application dans la vie de millions d'hommes homosexuels, notamment pour ceux qui n'avaient pas accès aux lieux de rencontres physiques dans les grandes métropoles, ou encore pour les personnes vivant dans l'un des 69 États où l'homosexualité est encore criminalisée. Une mise en lumière salutaire de cette application qui attire encore aujourd'hui 13 millions d'utilisateurs par mois et qui nous rappelle que la tech peut toujours être mise au service d'un monde meilleur.
Les nouvelles d'un monde meilleur à retrouver évidemment sur l'application Radio France. On poursuit notre passionnante discussion en compagnie d'Ophélie Coelho, chercheuse indépendante et autrice de Géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas de géant, avec Benjamin Birnbaumer, économiste et maître de conférences à Sciences Po Bordeaux, auteur de Chine, États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation, c'est aux éditions de La Découverte et ça arrive dans quelques jours, et avec Alain Wang, conférencier, sinologue et enseignant à l'École Centrale Paris. Alors Benjamin, lorsqu'on parcourt votre ouvrage, vous parlez de l'importance de la guerre des puces. C'est quoi ça, cette guerre des puces ? Moi je connaissais la guerre des boutons, mais la guerre des puces, il faut m'expliquer.
Eh bien oui, c'est nouveau. Donc les puces, évidemment, c'est un dispositif essentiel, puisque c'est en quelque sorte au fondement de l'intelligence artificielle. Souvent on dit que les données, c'est le pétrole du 21e siècle. Mais encore faut-il savoir, faut-il pouvoir traiter les données, et c'est précisément le rôle que remplissent les puces. Elles permettent de traiter une grande quantité de données, et cela de manière de plus en plus performante. Et donc, ce qu'on observe depuis un certain nombre d'années, c'est que les États-Unis s'inquiètent du rattrapage chinois en matière de semi-conducteurs, de sorte à ce qu'une des dernières mesures prises par l'administration Obama, c'est précisément la mise en place d'un groupe de travail visant à défendre la supériorité américaine en la matière.
Ça, c'est intéressant de rappeler que ça date d'Obama, donc de 2016. Donc ces interdictions, ces restrictions, ces limitations ne sont pas nouvelles.
Exactement, la dynamique commence avec Obama, commence avec ce réveil aux États-Unis. Tout d'un coup, ils comprennent réellement que la Chine est en train de rattraper son retard à une très très grande vitesse. Et donc, ce que font les États-Unis, c'est qu'ils mettent en place deux types de mesures que je retrace aussi dans mon livre, à savoir les sanctions et puis les subventions très généreuses pour les sociétés américaines. Donc, on pourra développer ça.
Et les effets justement de ces mesures, les effets des sanctions par exemple ? Parce qu'on voit que ça n'empêche pas non plus Huawei de continuer, mine de rien, à prospérer. Sans reprendre les mots d'Ophélie Coelho tout à l'heure qui disait que finalement, d'un mal, la Chine pouvait arriver à le retourner pour elle. C'est quoi les effets réels de ces restrictions ?
Il est vrai que les sanctions produisent des effets bien réels, mais qu'en même temps, les sanctions sont toujours poreuses. C'est jamais un barrage totalement étanche. Et donc, ce qu'on voit, c'est que effectivement la Chine continue à développer des technologies et même devient de plus en plus performante. Et ce qui est peut-être le plus notable dans cette histoire, c'est que précisément, malgré les sanctions, elle y arrive. Donc c'est ça un indice frappant de ses capacités innovantes.
Alain Wang, il y a une position qui est assez ambivalente, ou du moins très tendue, qui est celle de Taïwan sur la question des semi-conducteurs. Car pour rappeler juste les forces en présence, on sait que les États-Unis aujourd'hui sont devant, assez largement devant. On pense notamment à l'entreprise Nvidia, mais il y en a d'autres. Sauf que ces entreprises s'approvisionnent pas toutes aux États-Unis, loin de là, souvent à Taïwan. Or, Taïwan est dans une position géopolitique assez complexe. Donc quel rôle finalement peut jouer ce conflit entre la Chine et Taïwan ?
Je reviens juste un tout petit peu sur la Chine. En 2022, la Chine a mis en place un fonds de 22 milliards d'euros pour permettre aux acteurs chinois justement d'être beaucoup plus performants sur la recherche et donc pour produire des puces de petit niveau, enfin dire 5 nanomètres, 7 nanomètres, 2 nanomètres, parce que c'est quand même le projet. Ce qui s'est passé, là aussi c'est le système chinois, c'est qu'il y a eu beaucoup de corruption à travers l'ensemble de cet argent qui était disponible, beaucoup de sociétés qui ont puisé, etc., et qui finalement ont abouti à pas grand-chose. Hein, il y a le président de Tsinghua Group qui est en prison actuellement pour avoir volé de l'argent. Donc, évidemment, je reviens à Taïwan, Taïwan a un rôle important. Taïwan, c'est pour la Chine potentiellement, si elle arrivait à capter le savoir-faire de Taïwan, elle évidemment deviendrait une des premières, peut-être la première puissance technologique du monde. Maintenant, je pense que les Taïwanais ont choisi leur camp. Hein, ils ont revoté pour une troisième fois pour la démocratie, donc évidemment avec un regard vers les États-Unis. Et Biden, mais aussi l'Europe, a proposé aux grands de Taïwanais, TSMC, etc., USSMC.
Donc TSMC, c'est eux qui fournissent en l'occurrence
les semi-conducteurs. C'est eux qui fabriquent les semi-conducteurs. De très petit niveau. Et donc l'idée, c'est que ces entreprises créent des sites de production en Europe et aux États-Unis, avec la capacité véritablement de déplacer potentiellement le savoir-faire. Maintenant, c'est pas si facile que ça, parce que la problématique des États-Unis, comme la problématique de la Chine, comme la problématique de l'Europe, bah, c'est d'avoir les talents. Parce qu'il n'y a pas que des machines, il y a des gens aussi qui sont de très bon niveau, et pour l'instant, ils sont à Taïwan. Et les Américains, par exemple, dans le Colorado, ils n'arrivent pas à démarrer leur plan parce qu'il leur manque des talents. En Europe, on va avoir le même problème. Donc, Taïwan reste pour l'instant central.
D'où aussi le fait que Taïwan soit parfois l'objet de menaces militaires.
Taïwan est l'objet en permanence de menaces militaires. Alors moi j'ai un peu une position un peu particulière par rapport à ça. Je pense que la problématique de Taïwan est liée à la problématique de la situation économique de la Chine. Si Xi Jinping entraîne la Chine dans une crise économique très très importante, il devra trouver quelque chose pour détourner l'attention, et Taïwan pourrait malheureusement peut-être en faire les frais.
Voilà, du moins on verra ce que l'histoire nous dit. Ophélie Coelho, on a aussi l'impression qu'on écrit l'histoire avec les semi-conducteurs, qu'on la condamne justement en disant que la Chine n'arrivera pas à rattraper son retard. Vous le disiez tout à l'heure que parfois on a encore tendance à regarder la Chine de haut malgré son avancée, les progrès qu'elle réalise chaque jour. Donc vous pensez que sur la question des semi-conducteurs, qui est centrale, hein, pour que nos auditeurs et auditrices comprennent bien, les semi-conducteurs, c'est les téléphones, c'est les voitures, c'est l'intelligence artificielle, c'est vraiment un secteur archi stratégique.
Oui, absolument. Après, c'est pas le seul secteur stratégique, hein, évidemment. Sur les semi-conducteurs, là, il y a eu une annonce, en effet, il n'y a pas très longtemps, de la Chine sur des brevets pour des puces 5 nanomètres. Donc, on arrive quand même petit à petit, enfin, voilà, à avoir des équilibres, en fait, dans ce secteur-là. Bon, ils n'en sont pas encore aux 2 nanomètres, hein, ils ne sont pas du tout encore à cela. Et puis surtout, ils ne communiquent pas beaucoup là-dessus, histoire de pas trop montrer. Je pense qu'il y a aussi quelque chose dont on n'a pas trop parlé jusqu'à présent. C'est que on parle des semi-conducteurs, on a parlé des réseaux sociaux, donc de la partie logicielle. Il faut bien comprendre que tout cela sont des éléments d'une chaîne de dépendance qui est assez énorme. On pourrait également parler de l'extraction minière dans ce cas-là. On pourrait également parler de la logistique, du fait que après les semi-conducteurs, il y a la production des machines, des ordinateurs, des serveurs, etc. Et voilà. Et après, il y a les entreprises qui gèrent les centres de données. Donc tout ça, c'est une chaîne assez complexe d'acteurs qui sont plus ou moins importants. Et dans l'ensemble, on peut dire que la Chine est assez forte dans certains domaines, comme l'extraction minière, sur lesquels ils vont pouvoir jouer, comme la production électronique, comme les réseaux mobiles, tout ce qui est mobile de manière générale, via Huawei, etc. Et les Américains sont très bons sur le logiciel et également sur les centres de données, puisqu'ils ont des très grandes entreprises qui monopolisent quelque part le recueil de données. Donc il faut aussi comprendre cela comme un écosystème bien plus complexe que ce qu'on voit généralement dans l'actualité. Mais sur les semi-conducteurs, en effet, on a quand même une avance de la part de la Chine, même si
des États-Unis.
Alors sur les semi-conducteurs, ouais. des États-Unis, mais de manière générale, que ce soit de la Chine et des États-Unis qui avancent sur ce domaine-là, avec une nouvelle avancée sur les 5 nanomètres, en effet, pour la Chine.
Benjamin Berbaumer, vous souhaitiez réagir ?
Oui, alors je trouve que effectivement, c'est très important d'insister sur cette notion de chaîne d'approvisionnement, comme vous venez de le faire, et ça permet aussi de mieux comprendre les sanctions mises en place par les États-Unis. Quand on prend le monde des semi-conducteurs, grosso modo, il y a 3 segments. Il y a la conception, la fabrication et puis l'assemblage. Et historiquement, la Chine faisait l'assemblage, qui est l'activité la moins intense en savoir-faire, la
moins
sophistiquée.
Savoir-faire technologique, ouais.
Exactement. C'est la plus simple, c'est aussi celle qui apporte le moins de valeur ajoutée, alors que aux États-Unis était plutôt concentrée la conception. Et alors, quand on conçoit la chaîne comme ça, évidemment, il est relativement facile pour les États-Unis de trouver un remplacement pour l'activité qui est faite en Chine, l'assemblage. Mais du point de vue chinois, il est beaucoup plus difficile d'accéder au savoir qui est utilisé aux États-Unis pour concevoir. Et c'est sur ça que jouent les sanctions américaines, où on prive la Chine, par exemple, de l'accès aux machines les plus sophistiquées, qu'on interdit l'exportation de certaines puces. Donc, c'est de cette façon-là que agissent les États-Unis. Et la Chine réplique, en quelque sorte, sur les domaines où elle est forte. Par exemple, l'exportation de certains métaux rares, ou des technologies d'extraction. Mmh. C'est justement sur ces domaines-là que la Chine a récemment introduit des restrictions d'exportation. Donc on voit bien que chacun essaie de jouer un peu sur son terrain pour nuire à l'autre à travers toute une chaîne mondialisée. Le risque maintenant, c'est qu'on arrive à une sorte de découplage, en tout cas partiel, de la production technologique.
Alors là, on est très effectivement focalisé sur cet affrontement entre ces deux blocs, hein, la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre. Alain Wang a rappelé aussi que c'était évidemment deux blocs qui étaient idéologiquement très différents, mais ces deux blocs visent aussi un autre continent, un autre territoire, une autre zone qui est stratégique, et il s'agit de l'Afrique.
Tecno a vendu 50 millions de téléphones mobiles l'an dernier en Afrique, ravissant le premier rang à Samsung et très loin devant Huawei et Apple.
Et voilà comment on a contaminé toute l'Afrique, en fait.
Donc, avec les bas prix?
Toujours avec les bas prix, par rapport aux autres, bien sûr.
Fatoumata avoue que les téléphones abordables et les programmes de Star Times ont amélioré son opinion de la Chine.
La culture chinoise, leur balai, les trucs là, que moi j'aime beaucoup, j'aime regarder. Quand ils font des carnavals, là, j'aime beaucoup ces trucs.
Donc, vous en connaissez plus sur la Chine maintenant?
Oui, j'en connais beaucoup.
Alors ici, on écoute un extrait d'un reportage qui parle du développement donc de smartphones en Afrique. C'est l'un, justement, des produits qui est développé par la Chine. Il y en a évidemment d'autres. C'est quoi, d'ailleurs, Ophélie Coelho, la stratégie chinoise du déploiement d'infrastructures en Afrique?
Il y a un projet, en effet, qu'on appelle souvent les routes de la soie numérique, et qui, dans le nom chinois, est plutôt la ceinture et la route. Hein, Alain Wang pourrait expliquer bien plus cet élément-là, qui diffère pas mal. Les routes de la soie numérique, en soi, c'est de créer de nouvelles routes, de nouvelles infrastructures, afin d'étendre les technologies chinoises. Et en l'occurrence, là, c'est aussi le cas pour l'Europe. Hein, je veux dire, le câble PIS, le câble sous-marin PIS, qui a été créé par Hengtong, par le consortium chinois Hengtong, en fait vient rallier les côtes européennes via Marseille et également en Espagne. Donc c'est vers l'Europe et c'est également vers l'Afrique, avec donc PIS qui vient sur l'Afrique de l'Est et le câble également tout Africa, le câble sous-marin tout Africa qui fait tout le pourtour du continent africain afin en fait de transporter des données numériques massives. Et donc, qui veut dire données numériques dit également logiciel, usage numérique de manière générale. Et ça, bon, c'est pas uniquement les entreprises chinoises néanmoins, puisque par exemple le câble tout Africa, c'est une collaboration entre Meta, donc l'américain Meta, MTN, le sud-africain, et donc China Mobile. Donc on a des collaborations sino-américaines quand il s'agit
là,
de...
Là c'est
créer...
intéressant, parce qu'effectivement, ah, oui. Ils collaborent par pragmatisme.
Absolument. Très souvent, d'ailleurs. Très souvent, ils collaborent par pragmatisme, notamment quand il s'agit de bâtir des infrastructures qui sont les socles physiques au futur business sur le continent africain. Huawei investit énormément aussi, mais ça, c'est également les entreprises américaines, hein, il faut quand même bien le noter. Ils investissent énormément dans le développement d'infrastructures terrestres et d'infrastructures mobiles, ainsi que la création de centres de données. Voilà, l'installation des chantiers de centres de données dans plusieurs pays du continent africain. Donc tout ça, c'est plutôt une prédation de la part de multinationales du numérique. Je dirais que de ce point de vue-là, il y a des nationalités, ça va être chinois et américain globalement parce que c'est eux qui ont de l'argent, mais c'est une prédation un peu de business.
On va dire que c'est une prédation aussi classique, hein,
classique,
que l'on voit
dans
le Nord-Sud. Sauf que on comprend ici qu'avec l'Afrique, elle est multifactorielle puisqu'elle a à la fois un marché. Quand même un marché d'équipements de smartphones qui est encore à conquérir, qui va grandir, alors qu'on voit qu'on a des marchés
c'est
qui sont assez saturés.
C'est des usages majoritaires. En Afrique, c'est le mobile avant tout.
Et on voit d'ailleurs que le mobile sert même de système de paiement depuis très longtemps par SMS. Mmh.
Sauf qu'il faut revenir aussi que derrière, en parlant du projet de l'initiative de la ceinture et de la route, on est dans un projet aussi quand même idéologique de la part de la Chine. C'est aujourd'hui 150 pays. C'est sur le plan simplement numérique. Ça va être bientôt le 16 avril. Ils ouvrent la conférence mondiale de l'Internet à Xi'an, au cœur de la Chine, où ils vont accueillir 30 pays, dans lequel ils essaient d'imposer leurs normes et d'imposer aussi leur façon de voir l'utilisation du numérique. Donc il ne faut pas jamais oublier ça, qu'aussi, on a énormément de pays aujourd'hui qui sont en train d'essayer d'adopter, potentiellement, je dirais pas tout de suite, mais ils regardent de très près le crédit social, les surveillances de masse, oui. Et là on retombe sur des pays africains qui sont plutôt des pays, on va dire aussi, très autoritaires, si ce n'est des dictatures.
Oui, parce qu'il faut jamais oublier que ce crédit social et que tout ce dispositif de surveillance est exportable et s'exporte déjà et vendu, c'est-à-dire qu'il y a un usage interne, on le connaît, mais il y a aussi un usage externe.
C'est l'intelligence de la Chine, elle vend quelque part une idéologie dans l'utilisation du numérique, mais elle vend aussi son matériel.
Oui. Donc ça, c'est très intelligent. Mais c'est en effet, oui. Alors, ce qui est assez problématique d'ailleurs, parce qu'on va avoir des entreprises vraiment chinoises spécialisées dans la vidéosurveillance, comme Hikvision, Huawei avec toute sa branche aussi, donc des logiciels aussi de vidéosurveillance. Et c'est vrai que ça se vend bien dans pas mal de pays africains. Malheureusement.
Pour Hikvision, on pourrait même parler de Londres, parce que je crois qu'aux derniers Jeux Olympiques, c'était des caméras Hikvision et que les Britanniques ont dû retirer 1 200 000 caméras sur l'ensemble de leur territoire pour mettre des caméras occidentales et éviter d'avoir des caméras chinoises.
Et voilà, ça se vend bien parce qu'évidemment, l'argument sécuritaire est très tendance dans tous les pays du monde. C'est intéressant, effectivement, de rappeler les grandes échéances comme les Jeux Olympiques. Ça fait l'actualité aussi chez nous. Benjamin Birnbaumer, on a Alain Wong qui a cité un mot important, qui est celui de normes. Et là aussi, on sait qu'il y a une guerre qui se joue sur la norme. Alors, la norme, c'est moins spectaculaire, c'est moins visible que d'autres combats, mais néanmoins, la Chine, elle aussi, essaie d'être en pointe pour imposer des normes.
Exactement. Et alors, quand on est innovateur, généralement, on essaie aussi de graver, en quelque sorte, dans le marbre, cette innovation. C'est donc, en quelque sorte, la norme, la normalisation technique qui permet de le faire. Et quand on est quand on est pionnier sur la normalisation, eh bien, ça permet de s'assurer une sorte d'avantage compétitif institutionnalisé. Et dans ce domaine, dans la normalisation internationale, la Chine, effectivement, a connu une montée en puissance assez spectaculaire. Donc, en quelque sorte, la Chine, maintenant, a réussi à déterminer de plus en plus les infrastructures, donc l'univers rhizomatique sous-jacent aux transactions économiques, arrive à les façonner. Et ça donne un avantage compétitif aux firmes chinoises. Et d'ailleurs, cette préoccupation des infrastructures parcourt l'ensemble du livre Chine-États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation, puisque en réalité, ce qu'on voit ici, c'est pas seulement des batailles autour des parts de marché, c'est des batailles autour du contrôle des marchés en tant que tel. Donc c'est pas seulement quelque chose de ponctuel, c'est durable.
Alors Alain Wong, pour peut-être maintenant aborder une petite note d'espoir, parce que là on est en pleine bipolarité entre ces deux pays. Alors on a compris qu'ils pouvaient collaborer par pragmatisme lorsqu'ils étaient plus forts ensemble pour installer des infrastructures, mais on voit très bien que c'est pas forcément l'amour ou l'empathie qui les guide. Néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas un rôle à jouer du côté de la jeunesse, du côté des étudiants chinois qui sont très nombreux aux États-Unis par exemple? On voit que les chiffres sont encore importants. Ces étudiants-là, ils peuvent être aussi à leur manière des passerelles.
Des passerelles de...
D'échanges, de collaboration. C'est-à-dire avec peut-être des étudiants qui sont un peu moins dans ce schéma d'opposition systématique, qui peuvent avoir un esprit d'ouverture, sans paraphraser notre slogan de France Culture.
Oui. Non, il faut bien percevoir aussi que les jeunes Chinois, depuis quelques années, sont très déçus de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils ont vécu dans un monde qui était plutôt dans une certaine forme d'ouverture sur le plan économique, donc avec des capacités d'entreprendre. Et de plus en plus, c'est des jeunes Chinois qui voient que la capacité d'entreprendre est de plus en plus réduite. Alors, par contre, je dirais peut-être qu'il y a un espoir pour eux. On peut toujours partir sur de l'espoir, comme vous le dites. Là, ces jours-ci, le président Xi Jinping a décidé, alors il commence par l'université de Tsinghua, qui est une des plus importantes dans la recherche, d'allouer une somme de 30 000 $ par étudiant, à condition que cet étudiant en premier cycle ait un projet technologique intéressant. C'est-à-dire que c'est la première fois que j'entends ça en Chine, que la Chine prend un risque. c'est-à-dire vis-à-vis de nouveaux talents, de jeunes, de les porter, de les pousser véritablement peut-être à créer quelque chose de nouveau. Alors est-ce que ça va permettre véritablement de relancer la machine et l'espoir des jeunes Chinois? Je le souhaite, mais j'en suis pas sûr non plus quand même.
Alors est-ce que l'espoir se trouve du côté de la collaboration sino-américaine vers la pop culture? Marie Turcan va nous le dire, elle vient d'entrer dans ce studio. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Et vous allez parler d'une série qui s'appelle Le Problème à trois corps, qui est une série chinoise diffusée sur une plateforme américaine, Netflix.
Eh oui, alors c'est plutôt une série américaine inspirée d'un roman chinois. C'est la série événement Netflix. Elle est sortie jeudi dernier. La plateforme de streaming met le paquet en publicité et en communication. Il faut la comprendre, quand on débourse 200 millions de dollars pour s'offrir les showrunners de Game of Thrones, il faut bien rentabiliser l'opération. Alors David Benioff et Dan Weiss s'attaquent ici à un grand nom de la SF chinoise. Le Problème à trois corps est une trilogie de romans de Liu Cixin, paru entre 2006 et 2010, traduit en France en 2016. On y parle religion, mathématiques et extraterrestres dans une ambiance dite de hard science-fiction, c'est-à-dire tout doit être le plus réaliste possible.
En 1977, ils ont détecté un signal. Ils l'ont baptisé le signal Wow.
Qu'est-ce que ça dit ?
Ils sont en chemin.
Tout n'est pas rose dans cette success story du Problème à trois corps. D'une part, l'auteur n'est pas ce que l'on pourrait appeler vraiment un dissident du pouvoir chinois. Interrogé sur le traitement des minorités ouïghours qui sont traquées, arrêtées, torturées par Beijing, l'auteur a pris publiquement le parti du régime. Je cite « Le gouvernement est plutôt en train d'aider leur économie et d'essayer de les sortir de la pauvreté », dit-il. Faut-il y voir ici une tactique pour se protéger lui-même contre la répression ? En tout cas, des sénateurs américains ont demandé en 2020 à Netflix d'annuler cette adaptation. La plateforme s'était contentée à l'époque de se désolidariser des propos de l'auteur.
Alors, est-ce que cette série est critique envers la Chine et son régime ?
Alors, allons droit au but. Le Problème à trois corps, c'est surtout un gros blockbuster. Le Guardian a publié récemment un article dans lequel sont cités des spectateurs chinois qui ont réussi à contourner la censure de Netflix en Chine. Ils estiment eux-mêmes qu'il s'agit ici d'une version aseptisée, occidentalisée de l'œuvre originale et regrettent son succès par rapport à une autre version sortie en 2023, chinoise cette fois-ci, et déclinée en 30 épisodes par la firme Tencent. Une des rares scènes de la série Netflix qui égratigne le régime se trouve en introduction. On y voit la répression violente de la révolution culturelle des années 60. Dans la version originale des romans, ce chapitre avait été enfoui au milieu de l'œuvre par les éditeurs chinois pour échapper justement à la censure. Après avoir interdit les romans science-fiction jusqu'en 91, la Chine semble toutefois de plus en plus apprécier le genre, emmené par un Xi Jinping conscient qu'une saga romanesque à succès comme celle du Problème à trois corps peut être, de nos jours, un formidable outil de soft power.
Merci beaucoup Marie Turcan, j'ai vu Alain Wang acquiescer à l'écoute de votre chronique. Vous avez un commentaire justement Alain sur cette chronique et sur cette œuvre ?
De toute façon, ils sont quand même obligés de laisser un espace, on va dire, de liberté aux Chinois. Et la science-fiction, évidemment, laisse tout cet espace. Pour le reste, on peut dire que la littérature chinoise qu'on a pu voir dans les années 80-90, le cinéma chinois, les chanteurs chinois, tout ça a totalement disparu.
Tout ça a totalement disparu ?
Totalement disparu.
Donc voilà, moi je voulais finir sur une note d'espoir. Et puis voilà, Alain, vous brisez tous ces espoirs. Néanmoins, il y en a tout de même un, si on se rappelle justement vos propos précédents par rapport à cette jeunesse. Merci à tous les trois de m'avoir accompagné pour cette passionnante discussion au cours d'un conflit d'aujourd'hui, d'hier et sans doute de demain plus que jamais. Donc Ophélie Coelho, je rappelle votre ouvrage Géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas de géant, c'est aux éditions de l'Atelier, c'est sorti l'an dernier. Benjamin Burbaumer, votre ouvrage à venir s'appelle Chine-États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation. Merci donc pour ce teasing et ces premiers échanges autour de ce prochain livre. Alain Wang, on vous retrouve très bientôt sur l'antenne de France Culture, évidemment. Je remercie à la préparation de cette émission Juliette Deveau, comme chaque semaine, accompagnée par Lodine Storelli, à la réalisation ce soir Félicie Faugère, à la technique son Sébastien Royer et à la vidéo, car oui, cette émission est filmé à retrouver sur la chaîne YouTube de France Culture. Vincent René, le meilleur des mondes, c'est terminé. Rendez-vous évidemment la semaine prochaine.